L'incarnation scénique a ses mystères et parfois ses pouvoirs surnaturels. Le 2 mai 1797 à Londres, le public du théâtre de Drury Lane retient son souffle. Sur scène, Sarah Siddons, icône absolue de la tragédie britannique, incarne Agnès dans la pièce Fatal Curiosity de George Lillo. Le pitch, un vieux couple misérable recueille un jeune voyageur avant de céder à la tentation de le tuer pour son argent. Sur les planches, soudain, le visage de Sarah Siddons se transforme, méconnaissable, au point d'apeurer les spectateurs. Un cri déchire la salle, un spectateur terrifié sombre dans une crise d'hystérie incontrôlable. On évacue le théâtre, on parle alors de la Siddons Fever, la fièvre Siddons. Mon invitée ce soir, elle aussi, a le pouvoir de se métamorphoser. Séphora Pondy est actrice à la Comédie Française. Elle signe son premier roman Aval, apparaître chez Grasset le 27 août. Un texte captivant sur un corps qui n'entre pas dans les normes, sur les violences qu'il subit, sur la folie, sur le harcèlement. Bonsoir Séphora Pondy.
Bonsoir.
En dernière partie, nous serons rejoints par Noura Bansé qui, du haut de ses 18 ans, illumine les salles obscures dans L'été de Jaya d'Olivier Meis. À 18h30, comme tous les soirs, c'est le panorama de la culture. Au programme, on file à Saint-Malo se défouler au festival La Route du Rock. On redécouvre la saga Alien sur Disney Plus, et on profite d'une interview exclusive de Tim Burton sur YouTube. Alors allongez ce corps à côté de votre poste de radio, on déconnecte. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Séphora Pondy, on a parlé de métamorphose en introduction et ce terme y revient énormément dans vos interviews quand vous parlez de théâtre. Pourquoi ?
Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus sur un plateau, c'est de sentir qu'une actrice ou un acteur est un peu presque fait des sorties de corps, en tout cas joue avec son image, avec son corps, avec sa voix, et que ça implique quelque chose de l'ordre de la métamorphose. C'est ça que j'aime produire et que j'aime regarder.
Et seul le théâtre permet ça? Théâtre le permet plus, en tout cas.
Ce qui est fascinant dans le théâtre sur cette question-là, c'est que ça se fait en direct. Au cinéma, évidemment, il y a tout à fait la possibilité de se transformer, de se métamorphoser. Mais il y a quand même presque plus d'effets, plus de trucages. Alors qu'au théâtre, on peut vraiment, littéralement, voir une personne se modifier sous nos yeux. C'est le direct qui me plaît.
C'est laquelle votre plus belle métamorphose sur scène ?
Je dirais que c'est peut-être celle que je fais en ce moment dans le spectacle de Thiago Rodriguez qui s'appelle Écube pas Écube, où je joue plusieurs rôles et je joue notamment le rôle d'une personne qui travaille auprès d'enfants autistes et qui est un personnage qui est très très loin de moi.
Avant de monter sur scène justement avec vous et d'ouvrir votre roman Séphora Pondy, on passe au moment test, au moment où j'ai les mains trop grasses d'huile solaire pour tourner les pages de mon magazine. J'aimerais savoir quelle estivante vous êtes, c'est l'interview haute saison. Ça commence quand l'été pour vous, Séphora Pondy ?
Ça commence 1er juin.
Ok, ouais. C'est la date.
Ou à peu près, ouais, début juin, j'y suis.
Elle ressemblait à quoi vos vacances quand vous étiez enfant ?
Elle ressemblait à des colos, c'était vraiment trop bien.
Ah, vous êtes team colo ?
Ah, j'étais complètement team colo, vraiment à 100% team colo.
Quel genre de colonie alors ?
Vraiment très très classique, basique, pas forcément des colos où on fait de la musique ou quoi, vraiment un truc très... La plage, on a entre 13 et 16 ans, on fait des booms, on va voir la mer, vraiment très basique.
Avec les mêmes copines à chaque fois ou un renouveau,
renouveau
du panel ?
Renouveau sans arrêt. Renouveau sans arrêt, malheureusement.
Qu'est-ce que vous détestez en été ?
Qu'est-ce que je déteste en été ? Les moustiques.
C'est un excellent choix.
Ouais, vraiment,
vous n'êtes pas la seule, c'est fort abondi. Est-ce que vous aimez la ville en été ?
Paris peut-être, mais j'ai quand même tendance à prendre un peu large, à essayer d'être dans des endroits où il y a un peu des ruelles, il y a de la pierre, où on est un peu à l'abri.
On va fouler les planches avec vous, Séphora Pondy, mais avant ça, j'aimerais vous plonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 2012, on a échappé de peu à la destruction du monde annoncée par la fin du calendrier Maya. Le PAF pleure l'animateur Jean-Luc Delarue, mais il se passe des myriades d'autres choses, écoutez bien.
Donc tu trouves qu'Apolla et Myrtille, c'est ridicule.
Ah, ça va, lâche-moi toi aussi. C'est quand même très bien que c'est pas les prénoms normaux.
Ma fille, ta nièce, ta filleule, a un prénom anormal. Ça veut dire quoi, normal, Vincent Larcher ?
Ça veut dire classique, pas original, si tu préfères.
Mais dis-moi, tu dirais que Adolphe, c'est normal ou original ?
Open Gangnam Style.
Tu sais, l'avenir, t'as l'intention de voler des voitures, t'es déguisé en voleur de voiture.
Et t'es qui, toi ? T'es un flic ?
T'es sérieux ?
Tu crois vraiment que tu es un flic? Un flic en combi moulant rouge et bleu?
Non, là j'avoue, franchement, je m'attendais plus à être pris pour un pilote de bobsleigh.
Oh, oh, mais c'est que monsieur est perspicace. Qu'est-ce que tu veux? J'imagine que tu es inquiet, effrayé, perdu. Ne t'en fais pas, je vais tout expliquer. Musique, matelot!
On a entendu Nicki Minaj, Starship, Psy, Gangnam Style, L'Âge de Glace 4, The Amazing Spider-Man, et je vous ai vu rire à cette scène du prénom, c'est fort répondu. Ce film, vous avez quel rapport avec ce film?
J'aime beaucoup ce film.
Il est culte pour vous, j'ai l'impression. C'est mort de rire.
Ouais, c'est, en fait, je m'attendais, je me rendais pas compte que c'était en 2012.
Vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans?
À peu près, ouais.
Qu'est-ce que vous faisiez?
Je commençais à faire du théâtre dans une école de théâtre.
Laquelle, du coup?
C'était une école qui s'appelle l'EDT 91, qui était à Évry-Courcouronnes. Et donc, ouais, c'était le début de...
C'était la professionnalisation. Vous en gardez quel souvenir?
Un souvenir génial. Bah, c'était le tout début. Ouais, c'était le grand début de beaucoup de choses. C'était très, très joyeux.
On va continuer de parler de votre parcours, mais pour l'instant, on reste en 2012 avec ce titre mélancolique devenu ensuite un incontournable des soirées grâce au remix de The Magician. C'est I Follow Rivers de Lee Kelly.
Yeah.
Un refrain que vous garderez peut-être en tête quelques jours, c'était I Follow Rivers de Licky Lee, remixé par The Magician sur France Inter.
France Inter. Le mag de l'été.
Il ne reste plus que quelques pages avant la fin de la tragédie et Nadia est déjà en retard.
Excusez-moi, je suis très en retard, j'étais en répétition.
Pas de problème, vous pouvez vous asseoir.
Je suis bien debout.
Vous êtes sûr ?
Madame Nadia Roger, quel genre de mère laisse son enfant à d'autres personnes au moment où il a le plus besoin d'elle ?
Bon, j'ai compris, je vais entendre cette question des dizaines de fois.
Des centaines de fois !
Suite à la plainte concernant les faits de maltraitance sur mineurs et de violation du devoir d'assistance, que constitue le dossier ?
On vient de vous entendre sur scène, c'est fort répondu dans Écube pas Écube que vous avez joué à la Comédie Française de mai à juillet et qui reprendra en mars 2026. Une pièce écrite et mise en scène par Thiago Rodriguez. Alors, c'est fort répondu, vous avez grandi en banlieue parisienne, dans un milieu où le théâtre n'était pas vraiment une évidence. Jusqu'à une histoire de sardines grillées. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Bah, c'est assez simple. C'est un été où je crois que je reste sur place. Je pars pas forcément en vacances. Et il se trouve qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de MJC qui pullulaient un peu dans beaucoup de villes de banlieue parisienne. Et donc, j'y étais. Et il y avait un atelier théâtre qui s'est créé. Je n'ai plus aucun souvenir.
Vous avez 6 ans à l'époque.
À peu près, ouais. 6-7, pas plus. Et je me rappelle que la personne qui s'occupe de ça s'appelle Marie-Jo.
C'est tout ce dont je
me souviens. Oui, j'espère vraiment qu'elle va m'entendre un jour. Et je me retrouve à jouer cette pièce qui s'appelle donc Les Sardines Grillées. Et je me rappelle que les gens rient. Je me souviens que j'ai une petite valise un peu en osier avec un chapeau trop grand. Et c'est une révélation. Et c'est trop. C'est un grand. Ouais, c'est très vivace encore dans mon esprit. Je ne me souviens que de ça. Je ne me rappelle pas si on a répété, je ne me rappelle de rien d'autre que
c'est
cette
la révélation.
Scène, un peu, ouais.
Il y a eu cet MJC, puis il y a eu le lycée avec une surveillante qui vous ouvre aussi un peu les portes de la scène en montant un cours de théâtre classique cette fois-ci.
Même pas classique, c'était une jeune femme qui est devenue une amie d'ailleurs, qui était étudiante en théâtre et donc et qui était surveillante à côté de ses études et qui du coup a ouvert une classe où au contraire on faisait plutôt des choses assez contemporaines et elle m'a fait découvrir Lagarce, Wajdi Mouawad.
Lagarce justement, je vous ai entendu en interview parler de Juste la fin du monde, c'est donc on la connaît aussi parce qu'il y a une adaptation au cinéma par Xavier Dolan en 2016. Pourquoi la découverte de Lagarce a été aussi déterminante pour vous en termes d'écriture par exemple ?
Parce que j'avais jamais lu une chose pareille nulle part, parce que c'était à la fois très oral et en même temps très littéraire, parce que c'était plein de mystères, parce que j'avais l'impression que c'était des mots d'aujourd'hui. Aussi, ça c'était très important, puisque j'avais forcément une formation d'écolière, donc où on apprend plutôt des langues anciennes. Et donc je me dis, on peut faire du théâtre avec une langue de maintenant.
Et cette langue de Lagarce, elle exprime énormément de choses, c'est ça que vous découvrez dans ce texte-là ?
Oui, beaucoup de... En fait, je la trouve très émotionnelle, très très émotionnelle. C'est des histoires de famille, et ça m'a toujours énormément plu.
Parlant de famille, comment réagit votre famille, vos parents, vos parents professeurs de gestion et de comptabilité, comment ils réagissent à votre envie de faire du théâtre, alors qu'il n'y a pas forcément de modèle d'ailleurs à ce moment-là ?
Ils réagissent avec beaucoup de circonspection, précisément parce qu'il n'y a pas de modèle et donc une petite inquiétude parce que c'est des métiers de saltimbanque. Ils se disent pas ça, évidemment. Mais comme plein de parents dans plein de milieux différents qui ne sont pas des milieux où il y a du théâtre, c'est troublant de... quand un enfant manifeste ça.
Vous avez un rapport à la notoriété. Enfin, vous saviez que vous alliez avoir un destin. Enfin, vous le mettiez en scène. Du moins, j'ai lu ça dans une correspondance que vous entreteniez avec une amie. Et vous répétiez cette devise « Notre jour viendra », qui est d'ailleurs un film de Romain Gavras avec Vincent Cassel de l'époque de votre adolescence. Oui. Vous étiez convaincu, vous et comme votre amie, que vous alliez vivre un destin extraordinaire. Ça venait d'où cette certitude ? Et c'était quoi cette correspondance ?
De l'ego trip pur et dur. C'est vraiment juste de l'ego trip, tout simplement. Non, mais on était très bon. J'étais quelqu'un de très lyrique, de très exalté, donc ça allait de pair avec toute cette envie de grandeur. Ça nous amusait. Puis c'est l'adolescence, donc on fanfaronne et tout. Et cette correspondance, c'était avec une amie. On s'est écrit pendant plusieurs années. En fait, j'ai entretenu beaucoup de
Vous aimiez écrire
énormément.
Même malgré Facebook.
Ah ouais, non, en plus on était snob, hein, on était snob. Donc ça s'écrivait à la main, ça s'écrivait des mails, ça se la racontait quand même.
Après le bac, vous franchissez le pas et vous intégrez donc deux écoles de théâtre, l'une dans l'Essonne et l'une à Cannes. Le milieu du théâtre, il est quand même assez bourgeois. Comment vous avez été accueillie en tant que jeune femme issue de classe moyenne, de banlieue, dans ce milieu-là et dans ces écoles-là?
J'étais bien accueillie. En fait, disons que ce qui se jouait, enfin, le sentiment de décalage, il était intérieur. Mmh. C'était pas quelque chose qu'on manifestait.
Vous avez dû vous adapter?
Oui. En fait, en termes de code, surtout en termes de code et des choses qui m'étaient jamais venues. C'est bête, la nourriture. Bêtement, enfin, le pesto, c'est arrivé quand je...
Vous ne connaissiez pas?
Bah non, pas du tout. Mais il y a plein d'aliments en fait qui sont tout à fait étrangers pour plein de gens.
Et la sociabilité, parce que j'imagine que les étudiants de ces écoles allaient boire des coups. Vous aviez pas forcément les moyens, c'est ça?
Ouais, bah oui, non. Il y a pas trop le. Enfin, le superflu était pas, c'était pas trop possible dans ces années-là.
Et vous le dites aussi en interview, vous aviez pas le choix, il fallait réussir. Il y avait une sorte de rage un peu de classe ou de revanche que vous aviez en vous.
Sans parler de revanche, ce qui était sûr, c'est qu'il y avait des objectifs très précis et pas de temps pour faire les choses en dilettante. Ça, c'est vraiment une chose qui ne pouvait pas exister, parce que quelque part, il fallait rentabiliser le temps qu'on prenait à suivre des voies qui sont des voies artistiques et donc très incertaines et qui pour certaines personnes ressemblent à un luxe, un privilège. Et donc, il fallait absolument pouvoir en vivre. C'était très, très important.
Puis en 2021, vous avez 29 ans, vous intégrez la Comédie Française. Ça représentait quoi, cette institution, pour vous, Séphora Pondy?
La grande classe. Avec un L majuscule, un G majuscule, un C majuscule. C'est des endroits de fantasme, enfin, absolu, mais comme beaucoup d'institutions. Et c'est drôle parce que je disais tout à l'heure que, ado, France Inter, c'était aussi un petit fantasme quand même.
Et ben, vous voilà dans votre fantasme, Séphora Pondy.
Je suis ravie.
Et comment vous avez été accueillie? Comment ça s'est passé ces premiers jours? Vous vous rappelez de vos premiers jours à la Comédie Française?
Oui, je m'en rappelle parce que j'étais, j'allais dire, un peu protégée de la salle Richelieu, Place Colette, parce que je commençais en répétant au Théâtre du Vieux Colombier avec Maëlle Poésie. Et donc, quelque part, j'étais pas encore écrasée sous le symbole. Je suis arrivée à petits pas, quoi, par la porte de derrière, même si le Théâtre du Vieux Colombier est un endroit magnifique, mais. Et je me suis sentie très bien. Alors, il y a des gens qui m'ont accueilli chaleureusement tout de suite, et puis d'autres qui étaient un peu plus en retrait. Mais
comment vous l'expliquez?
Je pense que c'est lié au fait que dès qu'il y a un petit nouveau, une petite nouvelle, on l'observe un petit peu, c'est de comprendre à qui on a affaire, parce que souvent c'est des, enfin la troupe c'est une aventure qui a 4 siècles, et là en l'occurrence il y a des gens qui sont là depuis des décennies, et donc quand quelqu'un de nouveau arrive, forcément ça prend du temps pour s'apprivoiser.
Mais l'accueil s'est bien passé. Vous avez été apprivoisé.
C'est plutôt l'inverse.
On va ouvrir votre premier roman, Séphora Pondy, mais d'abord un petit panorama de la culture. Ça serait après une tasse de thé avec les Montréalais de Population 2. Chose rare, le batteur est aussi le chanteur.
Don't
Le thé est prêt, c'était un extrait de Maintenant Jamais, le dernier album de Population 2.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h33, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle. C'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Faut-il interdire les spectacles de Dieudonné ? La polémique continue avec les propos très fermes du ministre de l'Intérieur. Ce matin dans Le Parisien, Manuel Valls a annoncé hier qu'il étudiait toutes les voies juridiques pour empêcher la tenue de ce qu'il appelle les réunions publiques de l'humoriste, plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale.
Le polémiste Dieudonné, plusieurs fois condamné pour propos antisémites et injures raciales, on l'a entendu, a contourné l'interdiction préfectorale de son spectacle le 8 août près de Rennes. Il s'est produit dans la cour d'un particulier à Sens de Bretagne devant 150 personnes. Sa première partie, le chanteur complotiste Francis Lalanne. Le journal Libération dissèque sa stratégie. Dieudonné annonce en dernière minute dans quel lieu privé il joue pour déjouer les forces de l'ordre et il prévoit de réitérer. Alors si vous voulez vous poêler dans la région, il existe des dizaines de salles de stand-up légales et sans humour dégoulinant d'antisémitisme. Rêvez pas à Kraftwerk, les hommes machines de Düsseldorf, précurseurs de l'électro à la fin des années 70, débarquent sur scène à Saint-Malo pour la route du rock qui commence demain. Au programme, les vieux rockers britanniques de Pulp, la voix caverneuse de King Krul ou les rythmes entêtants du groupe français La Femme. Trois jours de concert dans la cité corsaire. On en profite pour aller faire coucou à Châteaubriant. La route du rock à Saint-Malo, c'est jusqu'au 16 août.
J'ai grandi avec des films de monstres. On me disait que c'était bizarre d'aimer ça. Mais en vérité, tous les monstres, de l'étrange créature du lac Noir à King Kong, en passant par Frankenstein, le loup-garou, ce sont des personnages de contes. Ils représentent la part la plus humaine, la plus touchante de l'œuvre, plutôt que son côté sombre.
À l'occasion de sa visite en France pour la promo de la saison 2 de la série Mercredi, les équipes de Combini ont réussi à capturer Tim Burton dans les allées d'un des derniers vidéoclubs de France. Sa touffe de cheveux ébouriffée et son éternel sourire de gamin, le réalisateur raconte face caméra les films qui ont nourri les siens. Il revient par exemple sur les monuments de l'expressionnisme allemand comme Nosferatu. Il s'attarde ensuite sur Jason et les Argonautes, péplum en carton pâte des années 1960. Ces créatures ont forgé son tout premier souvenir de cinéma, une belle leçon de ciné à voir sur YouTube. Et si les extraterrestres complètement loufoques de Mars Attack ne vous impressionnent pas, pourquoi ne pas vous replonger dans la saga Aliens ? C'est le rattrapage du jour.
La première chose que je ferai quand je serai rentré chez moi sera de manger quelque chose de bon.
Ça c'est bien vrai, j'ai sûrement mangé plus mal que ça, mais j'ai souvent mangé beaucoup mieux, crois-moi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. C'est pas que ça.
Mets-lui ça dans la bouche. Pour la bouche.
Aujourd'hui, la série Alien Earth, inspirée de la franchise Machine à Cash, débarque sur Disney+. Et puisque la critique a plutôt dézingué cette première saison, redécouvrez plutôt la bête originelle de Ridley Scott, celle de 1979 qui a décimé tout un équipage, sauf Helen Ripley, incarnée par la magistrale Sigourney Weaver. Et si vous redemandez de la créature, les 9 opus de celui de James Cameron au nanar Alien vs Predator Requiem sont dispo sur la plateforme Disney+. Allez, barricadez-vous dans vos coucou poisseux pour tous les mater.
Quand t'es noir et que tu grandis dans les années 2000, enfin moi j'ai grandi fin années 90, années 2000, et j'avais vraiment la sensation de me raccrocher en fait à des figures, me raccrocher à des chanteuses de R&B aux États-Unis bien évidemment, à quelques actrices de sitcom aux États-Unis encore une fois parce qu'en France c'était vraiment vide. De un, c'était aux États-Unis, et de deux, Enfin, il y avait quand même quelque chose d'assez lointain, parce que c'était quand même des femmes qui étaient beaucoup plus claires que moi, de peau, qui avaient aussi beaucoup les cheveux lisses. Et donc forcément, je me disais, ah mais elle est plus claire que moi, et puis elle a les cheveux lisses, moi j'ai pas les cheveux lisses. Donc il y a quand même quelque chose qui manque. Et donc ça a été hyper difficile de pouvoir m'identifier à quelqu'un. J'avais l'impression de, je sais pas, de même pas être une femme en fait, de même pas être une fille. Et que je pensais que je pouvais porter n'importe quoi. On allait me trouver vulgaire, et donc forcément... je surperformais ma féminité.
On vient d'entendre Christelle Murula, autrice de l'essai enquêté Amour silencieux. Elle nous parle de l'absence de femmes noires françaises dans son adolescence, de modèles et des obstacles que ça a engendré dans sa construction. Sephora Pondy, vous avez 32 ans, vous êtes comédienne à la Comédie Française, bientôt metteuse en scène, et vous nous présentez votre premier roman Aval à paraître chez Grasset pour la rentrée littéraire. Cette absence de modèles dont parle Christelle Murula, que ce soit dans le théâtre ou plus largement dans la pop culture, est-ce que cette absence, elle fait écho en vous ?
Absolument. Comme Christelle Murula, évidemment, j'ai regardé vers les États-Unis, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et c'était satisfaisant jusqu'à un certain point, parce que ce qui m'a... En fait, au fur et à mesure du temps, évidemment, j'ai construit mes propres inspirations de façon presque un peu composite, un peu hybride. J'ai un peu pioché par-ci, par-là. Mais ce qui était, je pense, le plus désagréable, le plus difficile pour moi, c'était que... Et je vais citer Théodora. Je ne trouvais
qu'on
pas...
adore sur France Inter.
Oui, j'imagine. Je ne trouvais pas de fille noire bizarre. Et c'était vraiment important, cette notion, en fait. Parce que la bizarrerie, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je la trouvais chez des chanteuses comme Kate Bush, ou comme Catherine Ringer, que j'aime encore beaucoup, Mylène Farmer. Et donc, tout ça...
Ce côté outsider...
Ouais, atypique, étrange... avec une forme d'autodérision assez loin de... Enfin, dans un glamour très décalé. J'arrivais pas à trouver ce type de personnage chez des femmes noires. Et je trouve que c'est un peu plus le cas. Bah, je pense à Théodora, ou même Iseult. Je trouve que c'est plus récent de trouver cette typologie d'artiste.
Et au théâtre, est-ce que vous avez déjà senti qu'en tant que femme noire, on vous cantonnait à certains rôles ?
Je sais que cette chose existe, évidemment. Mais... je pense que c'est lié et à mon âge et à l'époque. Mmh. Il y a eu une espèce de miracle qui a fait que ça, ces choses ne se sont pas franchement produites, même si je sais très bien que c'est parce que il y a beaucoup d'autres femmes noires avant moi qui sont passées, qui les ont pris, qui ont dû essuyer ces plâtres-là.
Vous publiez votre premier roman Aval chez Grasset. C'est un texte qu'on avale justement d'une traite, à mi-chemin entre le thriller et la pièce de théâtre. On y suit l'âme, une jeune comédienne noire à qui tout réussit, elle est en pleine ascension, mais à qui son corps commence à échapper. Et en miroir, on découvre Tom, un jeune homme mal dans sa peau, qui développe une obsession dévorante, c'est le cas de le dire, pour elle. Il y a quoi comme similitude entre ce personnage-là, cette jeune actrice en pleine ascension, et vous, Sephora Pondy?
Et cette phrase, je me nommerai pas comme étant pleine d'ascension, mais ce qui est commun entre nous, c'est évidemment son métier, c'est évidemment sa couleur de peau, et ce que ça raconte, ce que ça implique dans son rapport au monde, évidemment. Il y a disséminé dans le roman des choses qui m'appartiennent, qui peuvent appartenir à mon adolescence, à mon enfance, mais il y a aussi beaucoup de fiction. Ça, j'y tenais vraiment énormément. Donc tout ça, c'est un grand mystère.
Dans votre livre, l'âme, donc cette jeune actrice, cette jeune comédienne, elle affirme « Mon profil de comédienne est rare, je suis jeune, noire et grasse, étrange triade, ne perds pas de poids, qu'on me répète, c'est à la mode en ce moment. » Et ce roman, c'est vrai que c'est l'histoire d'un corps, et ce corps, il est même un personnage à part entière. Pourquoi vous avez fait de ce corps, justement, ce personnage quasi central dans votre livre ?
Parce que...
Il lui échappe complètement, elle a de l'eczéma, il ne lui appartient quasi plus, il appartient aussi au metteur en scène...
Parce que j'avais envie de... Parce que je trouvais que c'était intéressant de... Oui, d'écrire à partir de ça. Enfin, oui, d'écrire à partir du corps et de ses états. En fait, c'était vraiment ça que j'ai envie de trouver. C'est de trouver une écriture qui soit très organique, très charnelle. Et qui soit, oui, comme une espèce de roman de peau. Enfin, vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je sais que je m'étais écrit en notes pour moi-même... quand j'écrivais sur l'eczéma, justement, j'ai envie d'écrire le bruit des ongles. Enfin, c'est vraiment ça que j'avais envie de... Les bruits des ongles sur la peau. C'était un goût esthétique, évidemment, et aussi, ça me paraissait ce qui était le oui, le plus urgent à raconter aujourd'hui aussi.
Votre roman, il raconte aussi les zones grises que peuvent traverser de jeunes acteurs et actrices dans leur formation. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été publiées. Je pense à Libération qui a publié une enquête accablante début juillet sur le laboratoire de l'acteur, l'école d'Hélène Zidi. À vos yeux, pourquoi le milieu du théâtre, ça a pu être un terreau fertile pour les violences sexuelles particulièrement ?
Parce que je pense qu'on est dans un état de dévoilement, de vulnérabilité, de où on peut franchir certaines limites de manière délibérée et consentie, et voir comme il y a en plus de l'affect, je pense qu'il y a évidemment c'est le terreau pour des situations très troubles voire problématiques, parce que on est parce qu'il y a un engagement du corps évidemment, un engagement émotionnel et qu'on est
un sacrifice à nu. Votre écriture, elle est imprégnée par le théâtre. Certains dialogues entre les personnages ressemblent à des tirades qu'on pourrait voir sur scène. Je voulais vous faire lire un extrait. C'est une confrontation entre votre héroïne et sa meilleure amie Génia, qui lors d'une soirée mondaine lui reproche de se laisser dévorer par son succès et sa nouvelle vie. On vous écoute, Sephora Pondy.
Je n'ai rien compris à cette soirée, rien compris à vos discussions. Ça ne m'a laissé qu'un intérêt pauvre. À trop t'écouter, je prenais sans doute le risque de te haïr. Ne deviens pas de ceux qui croient à leur mérite, alors qu'ils ont la gueule et les titres de leur père et grand-père depuis que le monde est monde, depuis qu'il les haïssait à sa tête. Je te jure que j'étais prête à adhérer parce que c'est toi. J'ai cru qu'on n'en finirait plus de fêter tes victoires, mais je ne te suivrai pas là. L'âme, suis-moi, rentrons à la maison. Je te jure qu'il y a encore de quoi se faire une vie qui tient debout. Ça y est, tu l'as eu ta revanche, tu les as fait payer ceux qui ne t'invitaient pas au bal. Mais tu ne peux pas être parmi les planqués quand le monde brûle.
Merci Sephora, un extrait donc d'Aval, votre premier roman. On va aussi vous voir au cinéma, dans le film Soudain du japonais Hamaguchi, qui est actuellement en tournage. Et justement, Sephora Pondy, il y a une jeune actrice qu'on voulait vous présenter. Elle va nous rejoindre en studio. Elle a 18 ans, elle s'appelle Nora Bansé. Elle est à l'affiche de L'été de Jaya, qui est sorti mercredi dernier en salle. Elle y incarne une adolescente qui a dû fuir son pays et qui a trouvé refuge avec sa mère en Belgique. On va vous la présenter. Ça sera juste après Wet Leg, extrait de leur nouvel album Moisturizer sur France Inter. I tied a rope around my waist. I tend to get lost in your eyes. I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love?
Yeah.
C'était CPR de Wet Leg qui passeront par le festival Cabaret Vert dimanche et à l'Olympia le 27 octobre.
Le mag de l'été sur France Inter.
T'es ici depuis quand ? Presque 2 ans.
Pourquoi il y en a qui reçoivent vite les papiers ?
C'est long, je sais.
Zaya ?
Je voudrais te présenter Mila. Elle vient d'arriver.
Bonjour.
Bonjour.
Un jour, ce sera nous.
Tu rêves ?
Évidemment que je rêve. Il faut rêver.
Oh, si jamais on me met à la rue, tu viendras me voir ?
Arrête.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Sephora Pondy, comédienne. Vous venez nous présenter votre premier roman et on a été rejoint en studio par Noura Bansé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 18 ans, vous incarnez magnifiquement Jaya, une ado qui a dû fuir son pays dans le film L'été de Jaya, un long métrage signé Olivier Meiss qui raconte une amitié estivale poignante entre deux jeunes filles réfugiées. Un film qui a été acclamé par la critique, bravo. Comment, Noura Bansé, vous avez été repérée par le réalisateur ? Comment s'est passé ce casting ?
Ce casting, il a été très aléatoire, je vais être très claire, parce que même moi, je me suis demandé comment je me suis retrouvée là. En fait, de base, je ne voulais pas être actrice, et donc quand j'ai appris la nouvelle du casting, j'ai pas prétendu...
Vous étiez où à ce moment-là ?
Postuler. J'étais dans un centre de mineurs non accompagnés. Et donc, le directeur de casting, il a passé la nouvelle avant de venir dans le centre. Et quand il est arrivé, moi, j'étais dans le même endroit parce que je parlais avec le directeur. Et le directeur, il m'a dit, bon, vas-y, fais le casting. Comme ça, t'es pas venue pour rien. Je fais le casting, je me montre, moi, Noura, naturelle, extravertie.
Oui, parce que vous aviez jamais joué avant. C'est votre premier rôle.
Exactement. C'est mon premier rôle et premier film. Et je suis prise. Et on m'a dit que tu es prise pour Jaya. Moi, je m'attendais au moins à être prise pour Mila, mais on
donc
me dit que...
Donc l'autre personnage exactement. Qui est plus lumineux, c'est ça ?
C'est ça.
Parce que c'est vrai que Jaya, c'est une jeune fille, une adolescente qui est très renfermée très sur renfermée. Elle-même, qui est aussi traumatisée, qui a une vie où elle doit aider sa mère, qui a beaucoup de charges mentales. Ça ne correspondait pas à votre personnalité, Noura Bansé.
Du tout. Moi, je me disais, si on me prend, c'est pour Mila, pas pour Jaya. Et on me dit, t'es prise pour Jaya, et donc on te fait confiance pour donner vie au personnage.
Votre parcours aussi, vous n'avez pas été choisie de manière anodine. Le parcours de Jaya, il fait écho au vôtre. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire car vous étiez sous la menace d'un mariage forcé. 2 ans d'errance avant d'arriver en France à 15 ans en tant que MNA, donc mineur non accompagné. Dans quelle mesure vous avez puisé dans ce vécu pour jouer Jaya ? Est-ce que ce vécu vous a aidé, j'imagine, à interpréter l'héroïne ?
Oui, au départ, je m'en rendais pas compte. J'étais pas très sûre que ce vécu, il merde, parce que moi j'y allais parce que c'est un premier film, c'est une expérience, c'est une belle expérience et tout ça. Et au fur et à mesure du tournage, je me rendais compte que finalement Noura et Jaya ont des points communs. Parce que moi, je suis dans un centre de mineurs non accompagnés, Jaya dans un centre de demandeurs d'asile belge. On a les mêmes craintes. Est-ce qu'on va avoir les papiers ? Et est-ce qu'on va être accepté dans la société ? Et oui, ça m'a beaucoup aidé pour donner vie au personnage, surtout l'incarnation. Parce qu'on a les mêmes appréhensions, les mêmes parcours migratoires par la voie maritime, qui est très compliqué d'ailleurs. Et oui, c'est inspirant.
Bah, ce film, il aborde aussi les traumatismes liés à l'exil. Dans le film, Noura Bansé, vous vous occupez de votre mère qui souffre de chocs post-traumatiques. Il y a aussi Mila qui va sombrer dans le syndrome de résignation, donc qui touche certains mineurs qui sont dans une situation, qui ont fui leur pays. Donc en gros, c'est des enfants qui s'endorment, qui tombent dans un coma un peu inexplicable. Est-ce que vous avez observé, vous, Noura Bansé, ces réalités autour de vous ? Est-ce que vous avez vu aussi ces traumatismes autour de vous ?
Pas vraiment, parce que les syndromes de résignation, c'est assez particulier. Mais
c'est
moi,
assez rare.
Oui, c'est très rare. Mais moi, je ne connaissais pas, j'ai appris ça avec le film en même temps. Mais il y a certains jeunes, quand ils sont reconnus majeurs ou ils ne sont pas reconnus mineurs, pour le contraire, ils ont comme une sorte de maladie. Parce qu'ils veulent rester sur le territoire. Et donc, je sais pas si c'est le cerveau ou quoi, il y a des maladies qui se mettent en route. Mais en fait, des analyses, on ne trouve rien. Enfin, je me dis que c'est peut-être leur cerveau qui met ce truc-là en place, parce que ils n'ont pas envie de partir, ils ont envie de rester, ils ont envie de vivre sur le territoire. Et quand la nouvelle, elle arrive et qu'elle est vraiment mauvaise, parce que c'est très désagréable comme nouvelle, le cerveau, il prend un choc. Mmh. Il prend un coup et donc il crée des petits trucs.
Vous avez parlé du fait d'être reconnue en tant que mineure. C'est une étape que vous avez dû traverser, vous. Oui. C'est une étape qui est éprouvante.
Oui. C'est, on appelle ça l'évaluation. En fait, c'est une étape où tu dois prouver ton âge, retracer ton parcours dans les pays dans lesquels tu es passé, les années, les dates, pour que ça colle avec l'âge que tu dis en France pour te confirmer.
Est-ce qu'il y a une scène dans ce film, dans L'été de Jaya, qui a été particulièrement dure à tourner pour vous, et c'est laquelle, nous raconter?
Effectivement, c'est la scène de l'eau.
Pourquoi?
Parce que j'ai une très grande peur.
Donc c'est une scène où vous portez Mila, votre amie que vous avez rencontrée dans ce centre,
oui,
de réfugiés, et vous, elle est endormie et vous la portez dans l'eau. Donc ça a été très éprouvant.
Oui, très éprouvant.
Sephora Pondi, Noura Bansa, elle a parlé aussi de comment son histoire personnelle l'a influencée. Vous, sur scène, est-ce qu'il y a des douleurs, il y a des expériences vécues qui vont vous aider à incarner des rôles? Je pense par exemple à Médée, que vous avez incarné, qui lâche un cri guttural au début de la pièce.
Alors, il y a évidemment, par rapport à Médée par exemple, je ne pouvais pas me servir uniquement des choses qui avaient pu être des douleurs pour moi, parce que c'est quand même une histoire tellement gigantesque que il n'y a rien qui est comparable. Mais par contre, oui, forcément, on puise des choses qui nous appartiennent, et puis parfois, on s'empare aussi de sujets, de peines plus grandes, de sujets d'actualité. Enfin, je me nourris un peu de tout pour pouvoir, manifester cette peine-là dans mon rôle.
Noura Bansa, vous l'avez dit, vous étiez mineure non accompagnée. Est-ce que ce film, il vous a aidé dans vos démarches administratives? Est-ce qu'il y a une accélération?
Oui, il y a une accélération de mon titre de séjour, parce que je l'ai eu à 16 ans.
Ok.
Je devais logiquement l'avoir à 18 ans, mais vu que je devais partir dans un autre pays, en Belgique, pour faire le film, donc le département a pris l'initiative d'accélérer.
C'est quoi le message que vous vouliez transmettre au public avec ce rôle, avec ce film et ce récit?
Ce film, c'est une réalité, comme j'ai l'habitude de le dire. Je tiens à être très, très, très précise là-dessus. Parce que le réalisateur, il met une lumière sur ce dont nous, on n'est pas capable de savoir sans avoir connu l'histoire. Par exemple, nous, les mineurs non accompagnés, on a tous cette crainte-là d'être des papiers. Est-ce qu'on va avoir les papiers? On est Jaya, on est dans l'angoisse, on craint. Est-ce qu'on va accepter la société française? Parce qu'il y a le phénomène de racisme et tout ça. Et surtout, à l'école, quand on part, on n'est pas souvent accepté. Et ça, c'est un fait. Et c'est un peu pareil pour Jaya. Jaya, elle est dans son monde, elle veut ses papiers, elle veut sa positive. Et aussi, il y a le côté de Mila. Mais là, qui sombre dans un syndrome de résignation. Mm-hmm. J'ai beaucoup entendu des retours comme quoi on ne connaissait pas ce syndrome.
Oui, moi je connaissais pas du tout. Ouais.
Ce film permet de mettre une lumière sur
ces réalités et sur ce que vous avez vécu.
Exactement.
Merci beaucoup, Noura Bansa.
Merci à vous.
Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. On met quoi dans la valise? C'est le kit de survie culturelle. Sephora Pondi, le texte de théâtre a emporté dans sa valoche pour celles et ceux qui n'aiment pas le théâtre.
Alors, je dirais L'air poids lourd de Lachlan Philpott, qui est un auteur émérite et australien. Et je ne dis pas ça parce que c'est la pièce que je vais mettre en scène.
Oui, c'est vrai prochaine. Que vous allez passer à la mise en scène. Et pourquoi ce texte alors?
Parce qu'il est super bien écrit, il est très drôle, très intelligent, plein de charme, plein de vitalité. Il est aussi il peut être très sombre, mais en tout cas l'écriture, elle est un peu délicieuse à lire pour des gens en plus qui n'aiment pas spécialement le théâtre ou qui n'en lisent pas. C'est très simple, c'est plein de jeunesse. Voilà.
Noura Bansa, c'est quoi la musique de votre été 2025? Qu'est-ce que vous écoutez en boucle en ce moment?
J'en ai deux.
Dites-moi.
J'ai Jaja de Aya Nakamura parce que
c'est un hymne.
Il n'y a pas moyen Jaya, il n'y a pas moyen Jaya. J'ai lu ça dans Libération et je me suis dit, faut en parler. Et il y a une autre musique, c'est Paradoxe de Darla Gordegol, qui parle de la grâce de Dieu. Parce que je pense que ce qui m'arrive, c'est vraiment une grâce.
Merci beaucoup à toutes les deux. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à toutes les deux. Sephora Pondy, votre premier roman Aval paraîtra le 27 août chez Grasset. Et on vous retrouve au théâtre dans votre mise en scène de Bestioles à partir du 22 janvier et dans Écube pas Écube qui reprendra en mars. Noura Bansé, merci. L'été de Jaya est toujours en salle. Quel programme pour vous à la rentrée, Noura Bansé? Les études?
Oui.
Lesquelles?
L'Université catholique pour médias, culture, communication.
Eh bien, bonne chance pour cette rentrée. Joli et joyeux mois d'août à toutes les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tarana Touri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Étienne Bertin et Étienne Kenel à la réalisation. Assisté d'Amazir Amadein Guest et à la technique Achille Aknin.